Suivez Priorité Santé avec les sociétés Sunwa Assurance qui, au Mali et en Centrafrique, ont fusionné avec les sociétés Alliance et portent désormais la dénomination Sunwa Assurance. Sunwa Assurance, notre métier, l'assurance.
Priorité Santé, Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. L'affirmation de soi, c'est avant tout une question de respect. Respect de soi, à la fois de ce qui nous fait du bien, de nos propres besoins, mais aussi sans agresser les autres. Apprendre à exprimer ses attentes, à dire non, le cas échéant, ne pas rester silencieux par peur ou par complexe, faire entendre sa voix avec mesure pour ne pas passer de la timidité à la brutalité. Et lorsque l'on souffre d'un manque d'affirmation de soi, que l'on cède, que l'on se laisse marcher sur les pieds, que l'on subit, essayer de comprendre les causes, d'en chercher les origines, chercher les origines de cette retenue, de ces blocages, comprendre pourquoi il est important d'y remédier et trouver quelles pistes pourront nous permettre de réussir à nous affirmer. Et comme tous les jours, nous allons vous donner la parole, vos témoignages, les questions que vous nous posez sur la page Facebook de Priorité Santé au cours de cette émission, votre émission, des réponses, des conseils en direct. Et notre invité au féminin en ligne avec nous pour répondre à toutes ces questions, c'est vous, Anne-Victoire Rousselet. Bonjour.
Bonjour, Caroline Paré.
Vous êtes psychologue, psychothérapeute spécialisée en thérapie comportementale et cognitive au centre hospitalier Sainte-Anne à Paris.
Priorité santé sur RFI.
S'affirmer, on va le voir, hein, sans pour autant écraser les autres. On peut dire, Anne-Victoire Rousselet, que c'est d'abord une question de confiance en soi. Comment, justement, évaluer cette confiance en soi? Évaluer, le cas échéant, s'il y a un problème?
Alors, on l'évalue en observant, finalement. Parce qu'on va observer à quel point on est inhibé, à quel point on s'exprime, à quel point on se réprime. Et c'est nos comportements qui vont nous permettre d'évaluer ça. Après, la confiance en soi, elle va aussi se mesurer au risque qu'on va prendre. Risque mesuré, j'entends, c'est-à-dire à sortir de sa zone de confort, à s'autoriser à faire des choses nouvelles, faire de nouvelles expériences et s'autoriser aussi à faire connaissance, en tout cas sortir de son cercle.
En tout cas, il y a toujours une dimension d'équilibre, de mesure, parce qu'entre le silence, la retenue extrême, et puis pour certains, passer à la logorée, à l'explosion, ce qui est important, c'est aussi d'éviter de faire preuve d'agressivité.
Exactement. C'est-à-dire que c'est un équilibre, comme dans toute chose, l'agressivité peut être le même problème, finalement. Un autre versant du même problème, on connaît davantage l'inhibition, la timidité. Et un peu moins l'agressivité, on en parle moins, mais l'agressivité reste la même difficulté, c'est-à-dire je suis mal à l'aise dans la relation à l'autre, donc j'y mets fin rapidement.
Alors, est-ce que ça veut dire que dans un groupe, on va justement pouvoir apprendre à travailler sur soi pour apprendre cette affirmation de soi?
Exactement. On le fait en groupe, en effet, c'est une thérapie de groupe parce que justement c'est dans l'interaction que les choses se jouent. Donc on va apprendre à faire une demande, à dire non, à faire un compliment, à recevoir un compliment, ce qui est souvent le plus difficile finalement, hein, recevoir un compliment dans nos cultures, et puis à faire et recevoir une remarque négative sans perdre ses moyens et sans sentir qu'on menace la relation. C'est très important de s'autoriser à dire les choses sans imaginer que la relation puisse être abîmée.
Alors, ce travail d'apprentissage, il est au cœur de votre pratique, votre expérience professionnelle à travers des ateliers. Ça ressemble à quoi, un atelier d'affirmation de soi? C'est là encore un travail de groupe ou ça se fait en face à face?
Il y a les deux. Mmh. Vous pouvez le faire en face à face, mais ça avance quand même beaucoup plus vite en groupe. Mmh. Pourquoi? Parce qu'il y a le modèle de l'autre, c'est-à-dire voir le thérapeute faire et dire, on se dit, bon, ok, lui, c'est faire, mais c'est normal, c'est le thérapeute. Mais quand on voit ses petits collègues qui ont les mêmes difficultés, se sortir de situations et faire de nouvelles expériences, ça encourage encore plus et on se dit que pour nous, c'est possible aussi. Alors, à quoi ça va ressembler? En groupe, toujours un peu le même format, c'est-à-dire on va voir les situations qui ont posé problème dans la semaine. Mmh. Ensuite, on va avoir un apport théorique sur les situations justement de la semaine, puis une mise en pratique et puis une prescription de tâches et d'exercices pour pouvoir surmonter les situations en question.
Et justement, face à ces personnes qui ne réussissent pas à s'affirmer, Anne-Victoire Rousselet, est-ce que vous voyez, vous, dans votre pratique quotidienne en consultation, des risques ou des conséquences, même y compris sur le plan, on va dire, physique, avec des douleurs ou des manifestations pour le corps ?
Bien sûr, bien sûr. En fait, il faut bien imaginer que chaque émotion qu'on ressent correspond également à une décharge hormonale et physiologique importante. Chaque émotion a pour objectif de nous faire réagir, qu'elle soit positive ou négative, hein, joie, tristesse, colère, etc. Et donc, toutes les émotions qu'on n'exprime pas sont maintenues. Il y a un niveau de tension et un niveau de décharge hormonale et neurophysiologique qui est maintenu et qui use l'organisme et qui le fatigue, avec les conséquences qu'on connaît, c'est-à-dire perte de cheveux, ongles cassants, douleurs abdominales, céphalées, douleurs dorsales, enfin toutes ces, et puis des risques aussi de problèmes cardiaques. Hein. Ça peut aller jusque là. Donc on voit en effet qu'il y a des conséquences importantes et que c'est une cause sanitaire, de santé publique, d'exprimer ses émotions et de s'affirmer.
Tout à fait. Anne-Victoire Rousselet, on va justement passer aux situations concrètes. On va donner la parole aux auditeurs de l'émission hein, pour explorer notamment les explications et les causes de cette retenue excessive.
Priorité santé sur RFI.
Et le premier de ces auditeurs, c'est vous Yvon, bonjour.
Bonjour madame.
Vous êtes en ligne d'Abidjan, de Côte d'Ivoire. Alors vous allez nous raconter, Yvon, pourquoi vous nous appelez aujourd'hui, d'où viennent peut-être ces difficultés à vous exprimer, comment ça se passe ?
Merci de me donner la parole. En fait, moi mes difficultés, depuis tout petit, je suis quelqu'un de très timide, au fait. Donc, au fur et à mesure de l'évolution de mon enfance et tout, je me suis carrément renfermé. Je veux dire que je n'ai pas eu une enfance épanouie comme tous les autres enfants, au fait. Pas dû au comportement des parents ou autres, mais plutôt à cause de moi-même, au fait. Donc, J'étais trop renfermé et cette situation-là perdue encore aujourd'hui. Jusqu'au point où, quand il y a des situations, j'arrive pas carrément à m'exprimer. Même si on me fait du tort, je préfère garder ça pour moi-même, au fait.
Ça peut vous nuire et vous avez des amis, vous avez des gens avec qui en parler ou justement cette situation vous a conduit à vous isoler et vous avez peu d'amis?
Pratiquement pas d'amis, au fait. Donc je préfère garder mes problèmes pour moi-même, même si les parents sont là, les soeurs, les frères sont là, mais j'ai pratiquement du mal à leur parler.
Est-ce qu'il y a eu des cas où vous avez justement essayé de prendre la parole pour dire ce que vous pensez, où ça n'arrive jamais, ou des fois vous avez quand même malgré tout réussi?
J'arrive jamais à prendre la parole.
Jamais. Et vous en avez parlé autour de vous avec vos parents, par exemple, ou vos frères et sœurs, ou même un instituteur, ou jamais vous n'avez réussi à en parler jusque-là?
Jusque-là, pas encore.
Et pourtant, aujourd'hui, vous avez osé nous appeler. Alors, comment ça se fait qu'aujourd'hui, vous nous parlez et vous dites ce que vous n'avez raconté à personne?
Je vous parle aujourd'hui parce que chez l'émission... Je la suis de très près, même quand je ne suis pas en direct. Je vais sur votre page Facebook, les émissions qui sont passées, je réécoute, en espérant avoir une solution à mon problème.
En tout cas, on vous remercie beaucoup d'avoir fait cet effort, parce que c'est déjà un premier pas qui est intéressant. Anne-Victoire Rousselet, est-ce que la timidité, cette immense timidité dont nous parle Yvon, ça fait partie justement de ce problème d'affirmation de soi?
Oui, bien sûr. Et puis, c'est ce qu'on disait à l'instant sur cette zone de confort, c'est-à-dire que si Yvon n'a pas fait l'expérience positive de sortir de sa zone de confort avec d'abord l'inconfort, puis la réussite et du coup la satisfaction qui s'ensuit, eh ben évidemment, il a peur. Et plus il attend, et plus l'anxiété grandit. C'est normal. Alors, d'abord, je voulais en effet féliciter Yvon pour sa démarche, parce que c'est vraiment déjà un très beau pas. Ensuite, lui dire que ça touche beaucoup de gens. Hein. C'est une personne sur cinq qui est touchée par ses difficultés, mais qui n'ose pas forcément en parler. Donc, ce n'est pas rare. Et qu'il va falloir sortir, mais très progressivement, de cette zone de confort. Alors, pour ce faire, il peut s'aider avec un ouvrage qui est intéressant, qui s'appelle « Savoir s'affirmer en toutes circonstances », d'accord, écrit par Charlie Kunji, où là, c'est un mode d'emploi. Un mode d'emploi pour apprendre à sortir de sa zone de confort qui devient inconfortable parce qu'elle nous attriste. Donc, ce qui est important à comprendre, c'est ce qu'Yvon nous a très bien dit, c'est qu'en fait, il a jamais osé. Et souvent, ce qui nous freine, c'est la peur. La peur du jugement négatif de l'autre, la peur de pas être comme les autres, qu'on se moque de nous. Et donc, il faut pouvoir trouver le courage de surmonter cette peur ou de s'en moquer pour pouvoir sortir de cette zone de confort et découvrir un autre champ des possibles, beaucoup plus étendu et beaucoup plus satisfaisant. Mais pour ça, il faut le faire vraiment pas à pas.
Anne-Victoire Rousselet, est-ce que le premier pas, justement, peut-être aujourd'hui, cet appel d'Yvon à Priorité Santé, ça peut être considéré comme un premier pas, comme une amorce ?
Évidemment, c'est déjà un pas énorme. Hein. Moi, je vois des gens qui n'ont jamais osé appeler. Hein. Donc, évidemment, je trouve qu'Yvon a été très courageux. Et je pense que c'est le début aussi de la résolution de ses difficultés. Alors, qu'il sache important pour lui que finalement, c'est de démarrer qui est le plus compliqué. Hein. On se fait une idée beaucoup plus difficile que ce que c'est.
Donc, il faut se lancer. Yvon, si je vous demande, là, vous avez osé nous parler, vous avez exprimé votre sentiment, d'ailleurs en n'étant pas très tendre avec vous-même, en disant tout ça, c'est de ma faute. Je ne sais pas si tout le monde est d'accord avec ça. Mais en tout cas, comment vous vous sentez maintenant que vous avez franchi ce pas ?
Bon, avec les explications et tout, je vois que c'est vraiment un bon départ, un peu de soulagement, au fait. Donc, avec tout ce que le docteur vient de dire, ça va me permettre encore d'aller plus de l'avant.
Peut-être que des gens qui auront écouté l'émission viendront vers vous pour en parler avec vous, justement, pour vous encourager dans cette voie. On vous remercie beaucoup de votre appel, Yvon. On vous souhaite une excellente journée à Abidjan. On part tout de suite pour l'océan Indien, Madagascar, Voemar. Et c'est Natacha qui est en ligne avec nous. Bonjour, Natacha.
Bonjour à Eric et bonjour à tous les auditeurs du monde.
Bonjour à vous. Allez-y, Natacha. Anne-Victoire Rousselet à votre écoute. Allez-y.
D'accord. On me reproche souvent d'être trop direct et tranchant quand je dis ce que je pense. Et ça, sans que je me rende compte. À un moment, je voulais changer et cela a entraîné un problème de santé. On m'a dit de ne pas tout garder sur le cœur. Alors, je me trouve dans une situation entre soit me taire ou soit tout laisser sortir. Comment trouver les justes milieux ?
Le juste équilibre, c'est vraiment important, Natacha. Alors, avant, justement, vous disiez, avant, vous étiez beaucoup dans la retenue. Ça vous a quasiment rendu malade. Qu'est-ce que ça a fait sur votre santé ?
Même chaque jour, dans ma vie de chaque jour, s'il y a quelqu'un qui fait quelque chose que je n'aime pas, je ne dis rien. Je vais dans un petit coin ou bien je pleure. Et ça, à force de tout refouler, je sens mon cœur aller s'exploser. Il y a eu un moment où je me suis disputée avec quelqu'un et j'ai eu... Comment ça ? Je ne sais pas si c'était la cause, mais j'ai eu un infarctus de myocarde après.
Oui, des problèmes
je
cardiaques.
Je ne sais pas si c'était la cause, hein, je ne sais pas. Mais le médecin m'a dit, Natacha, tu as cette habitude-là, il faut que tu changes. Alors que quand j'ai changé, on me dit au boulot que voilà, Natacha, tu es trop directe quand tu dis des choses. Alors, je ne sais plus comment... Je ne sais plus comment faire.
Mais en tout cas, est-ce que vous allez mieux sur le plan de la santé ?
Sur le plan de la santé, oui, je vais mieux.
Ça va mieux.
Je prends des médicaments.
Anne-Victoire Rousselet, Natacha qui a dépassé son blocage, mais qui a peur d'aller trop loin et de blesser les autres. Qu'est-ce que vous pouvez lui dire ?
Oui, c'est le fameux entre-deux. Alors, il y a un petit truc qui marche très bien. C'est avant de dire quelque chose, il faut que vous disiez, hein, c'est absolument fondamental, votre médecin a raison. Donc, mais pour dire les choses, il y a plusieurs petits indices importants. Le premier, c'est déjà demander l'autorisation. Est-ce que l'autre est disponible pour que je lui parle ? Est-ce que je peux te dire quelque chose ? Tout simplement, mm-hmm. D'accord ? Donc ça, c'est quelque chose d'important parce que nous, on a besoin de dire quelque chose, mais est-ce que l'autre est disposé à l'entendre à ce moment-là ? Mm-hmm. C'est pas sûr. Donc, s'il n'est pas disponible, on peut très bien lui dire, OK, à quel moment tu seras disponible pour que je puisse te dire quelque chose. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose qui est très importante quand on va exprimer ses émotions, c'est toujours dans l'idée de ménager l'autre, c'est dire ce que nous, on ressent. Mmh. On ne dit pas « tu m'as blessé », on dit « je suis blessée par le fait que tu préfères te confier à Marie plutôt qu'à moi ». D'accord ? Donc, on va prendre les gants et toujours se centrer sur soi en disant ce que nous, on vit, sans dire que le comportement de l'autre est négatif. D'accord ? C'est moi qui le vis comme ça. En aucun cas, ça signifie que tu t'es mal conduit. Ça, c'est fondamental pour pas que l'autre se sente agressé.
Natacha, dans quelles circonstances on vous a reproché d'être trop tranchante ou d'être trop agressive ?
Moi, je travaille dans le milieu de la banque.
De la banque, oui.
Oui. Il y a des fois où des clients qui essayent d'expliquer des choses à même entreprise, ils comprennent pas. Mm-hmm. Et après, je dis, et c'est quand, à ce moment-là, que je dis, je donne mon avis ou je dis quelque chose, qui après, ils vont se plaindre auprès de notre chef, comme quoi Natacha a été
trop directe.
Blessante.
Blessante. Oui, trop directe. Mais est-ce que vous repérez, vous, quand vous le dites, est-ce que vous en rendez compte ou ça vient comme ça et ça vous dépasse ?
Non, moi, je trouve pas ça... Moi, je trouve ça normal parce que je suis très ferme dans tout ce que je fais. Je suis comme ça. Quand je veux faire quelque chose, je fais. Ou bien quand on me demande quelque chose, je le fais. Ou on m'explique quelque chose, je suis comme ça. Mais les gens n'entendent pas... Ils ne comprennent pas. Je sais pas, ils ne comprennent pas mon comportement de cette manière-là, mais je ne sais pas.
Ouais, c'est compliqué, Anne-Victoire, parce que ce que nous dit Natacha, c'est que pour elle, c'est son caractère et qu'en fait, les gens simplement n'acceptent pas son caractère et son tempérament.
Alors, il s'agit de l'annoncer. Il s'agit de l'annoncer, de dire, écoutez, je vais vous dire quelque chose de façon un peu ferme parce que c'est mon tempérament.
Voilà, ça, ouais.
Et vous dites ce que vous avez à dire. C'est-à-dire que c'est important de prévenir l'autre. Parce que l'autre ne sait pas ce qu'il y a dans votre tête. Voilà, exactement. Et lui ne sait pas comment vous êtes, ni ce qu'il y a dans votre tête. Donc, vous pouvez simplement amorcer votre comportement en prévenant. Voilà, je suis quelqu'un d'un peu ferme et direct et je vais vous dire les choses.
Comme ça, il est prévenu et c'est moins choquant.
Voilà, et il peut plus le digérer. Et surtout, il n'y a pas d'incompréhension et vous exprimez aussi beaucoup ce que vous ressentez parce que c'est fondamental pour votre santé, vous l'avez bien compris.
Voilà, Natacha, on vous remercie infiniment. Très bonne journée à Madagascar. On continue parce qu'on a beaucoup d'auditeurs qui nous ont appelés, beaucoup d'auditeurs aujourd'hui en direct dans Priorité Santé sur RFI. On prend la direction de la République démocratique du Congo pour retrouver Salomon à Kisangani. Bonjour Salomon.
Oui, bonjour.
On vous écoute, allez-y.
Oui, moi, parce que j'étais ensemble avec mes parents à domicile, je n'avais pas vraiment l'occasion d'exprimer mon opinion. Donc, lorsque j'essaie de m'exprimer dans tel ou tel problème, ils ne voulaient même pas m'entendre. Mais lorsque je me suis éloigné d'eux, j'ai quitté la ville où on était à Kindu, je suis revenu à Kisangani. Là, j'ai eu à voir un peu une liberté d'opinion, mais pas totalement, parce qu'il y a d'autres problèmes qu'on n'arrive même pas à m'entendre, je n'arrive même pas à m'exprimer. Donc, j'ai même peur d'être sanctionné. Parce qu'ils ne veulent pas m'écouter.
Pour vous, ils ne veulent pas vous écouter ou c'est vous qui n'arrivez pas à parler de certaines choses ?
Mais je n'arrive pas à parler. Vous allez parler comment alors que nous ne vous écoutons pas.
pour vous, c'est de leur part, il y a une sorte de fermeture. Anne-Victoire Rousselet, ne pas réussir à parler de tous les sujets, même quand on est très préoccupé, est-ce que c'est aussi un problème d'affirmation de soi ?
Tout dépend des sujets. Je crois que il y a certains sujets qui sont aussi tabous avec la famille, que les gens sont pas prêts à entendre. Mais là encore, il s'agit d'amorcer les choses. J'aimerais discuter de ça avec vous. Êtes-vous disponible pour en discuter? Et ça peut être non, ça peut être une façon de botter en touche aussi. Mais c'est important d'annoncer la couleur pour avoir une réponse.
En tout cas, les problèmes de pression, d'autorité familiale, de difficulté à s'exprimer au sein du foyer. On a un autre auditeur qui en parle, c'est Souleymane qui est à Conakry. Le message qu'il a laissé sur la page Facebook de l'émission dit la chose suivante. « J'ai été élevée dans la soumission, j'ai peur de dire non, surtout à mon papa. C'est difficile pour moi de discuter avec lui de ce qui ne va pas. » Alors, il y a ceux qui ne veulent pas entendre et puis il y a ceux qui n'osent pas parler. Et on peut dire que là, c'est répandu dans énormément de familles.
Ah oui. Et puis ça peut durer longtemps. Ça peut durer longtemps. C'est-à-dire qu'il faut accepter de se fâcher et accepter aussi de risquer la relation pour qu'elle s'améliore. Je m'explique. Une relation qui ne fonctionne pas ou dans laquelle on n'est pas à l'aise, c'est une relation qui se dégrade. Même si on ne dit rien, qu'on veut ménager l'autre, c'est une relation qui est moins directe et qui s'abîme. C'est pourquoi il faut prendre le risque de perdre cette relation pour pouvoir avancer dans cette relation, c'est-à-dire dire « Papa, il y a plein de choses que j'ose pas te dire parce que j'ai reçu une éducation qui peut être parfois un peu autoritaire » ou de dire simplement « Je n'ose pas te dire les choses, tu m'impressionnes beaucoup », mais de pouvoir avoir cette amorce et dire les choses va permettre ou d'améliorer la relation ou peut-être de la dégrader, mais en tout cas, elle est en train de se dégrader déjà.
Et avec cet auditeur, Salomon, qui est toujours avec nous à Kisangani, il y avait parmi les sujets, on va dire, tabous, impossibles à exprimer dans le cadre familial, ce qui a trait au mariage, c'est très certainement à la sexualité. Ça veut dire peut-être aussi, Anne-Victoire Rousselet, qu'il faut aller chercher ces informations, tout simplement, ailleurs ?
Oui. Les interlocuteurs, quand on travaille à l'affirmation de soi, avant d'apprendre à s'exprimer, à exprimer ses émotions, on va identifier les bonnes personnes pour. Il y a des bonnes personnes pour nous aider à déménager ou à faire une conduite, etc. Et il y a des bonnes personnes pour exprimer ses émotions, nos difficultés, qui vont nous entendre. C'est pas forcément les mêmes. Et puis, il y a aussi la question du moment. Alors, peut-être que la question du couple est trop taboue, la question de la sexualité est trop taboue pour l'aborder en famille et qu'il vaudrait mieux l'aborder avec des amis, une tante, un oncle, un frère, une sœur, en tout cas, quelqu'un qui aura une écoute pour ça.
Trouver la bonne personne à qui parler. Salomon, vous souhaite une excellente journée. On reste en République démocratique du Congo. On part à Kolwezi retrouver Shadrach. Shadrach, bonjour.
Oui, bonjour. Bonjour, RFI.
On est à votre écoute. Allez-y.
Oui. En fait, avec moi, c'est le sujet des conversations. Vous saviez, il y a d'autres conversations qui ne sont pas du tout convenables. Donc, je suis avec des collègues. Des fois, il y a de ces conversations-là qui peuvent éclater, auxquelles ce n'est pas vraiment convenable pour moi. Et ces gens-là veulent que je puisse donner aussi mon avis. Là, c'est le premier cas. Vous voyez, des fois, ils peuvent aborder des genres de conversations qui vont à l'opposé de ma moralité. En temps normal, je dois en fait être censé les interrompre. Dire que non, moi, je ne vais pas vraiment ça. Mais malheureusement, ça n'avait jamais été mon cas. Je me sentais un peu lourd pour imposer mon opinion, pour dire non, je ne vais pas en fait, je ne vais pas de ça. Donc là, je ne me sentais même pas à la hauteur.
Mais Shadrach, ces personnes, elles vous imposent leur point de vue ou elles vous imposent d'agir parce que c'est complètement différent? Si ces personnes ne font que donner leur avis, finalement, c'est un débat. Maintenant, est-ce qu'elles vous obligent à agir et vous vous soumettez? Qu'est-ce que c'est exactement?
Bon, voilà. Ces gens-là, les collègues, disons, ils s'attendent à ce que je puisse dire oui. Vous voyez un peu?
Est-ce que vous pouvez donner un exemple concret? Parce que là, on est un peu dans un cadre général, j'imagine. Vous dites, ça va contre votre morale, ça va peut-être contre vos valeurs religieuses ou contre des valeurs de votre village ou de votre famille. Mais c'est quoi exactement?
Oui. Je peux peut-être, deux fois, bon nombre de mes collègues me tarabister, hein, pour que j'adopte leur comportement. Peut-être c'est saoulé. Hein,
d'accord. Par fumeur, exemple, boire. D'accord.
La liste, est, voilà. Par exemple, boire. La liste est vraiment longue. Mm-hmm. Je me réserve par là. Au fond de moi, je savais que personne ne m'est être rejeté, encore moins tourné en dérision.
Je comprends. Donc, vous allez jusqu'à boire pour ne pas contredire les autres, ou simplement vous vous dites, bah, écoutez, je reste avec vous, mais vous allez jusqu'à avoir des comportements que vous réprouvez personnellement?
Vous faites pression sur moi.
Je comprends bien, pour pas être exclu.
Vous sentez une pression.
On comprend bien, on comprend bien.
Une pression.
Et vous, vous en avez marre de cela? Vous en avez marre de cela?
Oui, c'est comme on dirait, je faisais des choses dans le sens peut-être, afin que je ne sois pas traité d'un nil. Hein.
Je comprends bien.
Dans ce sens-là.
On comprend bien.
Voilà.
Anne-Victoire Rousselet, une pression énorme de l'entourage. On peut voir ça aussi dans le milieu professionnel. Hein. On fait des choses qu'on n'a pas forcément envie de faire. On sort avec des gens finalement qu'on, ben, finalement on apprécie bien une partie de leur comportement, mais pas tout. Qu'est-ce qu'on peut dire à Shadrach justement pour rester lui-même sans être exclu du groupe?
Il y a une question importante qu'il a soulevé, Shadrach, c'est la question de l'alcool qui est un vrai sujet problématique et épineux. C'est-à-dire que les gens qui boivent ont du mal à se dire qu'ils peuvent avoir un problème avec l'alcool et donc ils ont envie que les autres fassent comme eux parce que ça normalise leur comportement. Donc ce que dit Shadrach est très vrai, ça peut déclencher une forme d'agressivité ou de rejet de la part des gens qui ont l'habitude de boire et particulièrement dans ce comportement. Ce qui est important, c'est en effet d'être ferme et de dire, ok, qui est-ce qui est nul? Qui est-ce qui cherche à imposer son point de vue à l'autre? C'est-à-dire qu'il faut en effet trouver la force de caractère, mais j'ai l'impression que Shadrach l'a, en disant, c'est votre point de vue, vous pouvez bien me juger parce que je ne souhaite pas boire, mais en réalité, je fais ce qui me plaît. Et vous n'avez pas à m'imposer mon comportement, on peut passer un bon moment, vous et moi, vous peut-être en buvant et moi en ne buvant pas. Et on leur demande d'accepter notre différence. Sinon, c'est une forme de rejet et finalement de discrimination.
Respectez qui vous êtes, Shadrach, en expliquant aux autres simplement que pour vous, c'est différent, mais ce n'est pas pour autant que vous êtes en dehors de ce monde-là.
Oui.
Pour vous, c'est quelque chose qui semble possible ou trop difficile?
Bon. Auparavant, c'était vraiment très difficile. Très, très difficile, vraiment. Et tout a commencé, hein, le jour où je me suis décidé, hein, j'avais croisé un vieux papa là, il me dira que, Shadrach, si tu ne veux pas céder à la pression de tes collègues, là, si tu ne fais que céder à la pression de tes collègues, là, tu deviens l'air pantin. Alors, ça m'a fait réfléchir. Ça m'a fait vraiment réfléchir, vraiment. C'est à partir de ces jours-là, au fur et à mesure, que j'ai appris à dire non. Plus je disais non, plus c'est devenu pour moi vraiment naturel. Et mes efforts ont été récompensés. Aujourd'hui, je ne fais pas de serment pour m'affirmer. Un non tout simple, mais ferme, suffit. Quelqu'un peut-être, il peut m'appeler encore, hein? Il peut m'appeler peut-être pour dire que « Non, mon ami, tu viens, on va faire ceci, on va faire cela. » Là, je n'ai qu'à dire que non, non, ça serait sans moi. Ou encore, je peux tout simplement dire que tu sais bien que je ne fais pas ce genre de choses.
Et on entend bien, Shadrach, la détermination dans votre voix. On vous remercie pour ce témoignage très, très intéressant. Et on va voir que la situation, vous, c'est allé dans un sens, justement, cette évolution. Elle peut vraiment évoluer avec le temps. On retrouve en ligne du Tchad Irène. Irène est avec nous, bonjour.
Bonjour Caroline.
Bonjour Irène. Alors, vous êtes à N'Djamena, nous sommes à votre écoute, allez-y.
Ok, d'accord, merci. Alors, moi, mon problème, à la base, je ne suis pas une personne timide, parce que j'ai eu la chance d'être dans une famille avec des frères où on chantait à l'église et tout ça, donc j'ai acquis une confiance en soi très tôt. Maintenant, oui, jusqu'au lycée et tout ça, j'avais une bonne éloquence et tout ça lors des exposés. Seulement, après l'obtention de mon baccalauréat, j'étais partie dans un pays voisin pour suivre mes études et j'ai connu un problème de santé qui était en fait une transpiration excessive au niveau des aisselles accompagnée des odeurs. Et cela a du coup bouleversé mon existence, je veux dire, parce qu'à partir de ce temps, j'ai commencé à couper le pont avec les amis, avec mon entourage. Je partais à l'école, de l'école, rentrais, c'était tout. Parce que pour moi, c'était vraiment infernal parce que je me dis, les gens, ils vont tout de suite remarquer cela et tout. Donc, ça fait que je me fais discrète. La manière la plus discrète possible, je ne veux même pas que les gens sachent que j'existe et tout ça. Donc, ça fait que je suis introvertie, je me renferme sur moi.
On entend ce complexe, Irène, j'ai une question à vous poser, s'il vous plaît. Ce problème de transpiration vraiment qui vous gâche la vie, vous avez consulté pour ça? Qu'est-ce que vous a dit le médecin?
Alors, j'avais premièrement consulté un médecin généraliste qui m'avait consulté et qui a prescrit une lotion pour la douche. J'avais utilisé ça au bout d'un temps, mais ça ne marchait pas. J'étais ensuite partie consulter une dermatologue qui m'a clairement dit que ce problème existe, mais qu'il est très, très difficile à résoudre, et principalement ici au Tchad. Et donc, je suis comme ça. Par contre, j'ai très envie de retrouver ma vie, mais cela me bloque.
Mais ils n'ont pas donné d'explication médicale pour expliquer d'un coup cette survenue de cette grande transpiration?
Alors, non, ils n'ont pas dit en fait qu'est-ce qui serait à la cause. Par contre, ils m'ont juste dit qu'il se pourrait que ça soit, je ne sais pas moi, génétique, et qu'il y a un problème des glandes qui sont en suractivité, et c'est ce qui pourrait déclencher cela.
Et qui crée ce grand complexe. Anne-Victoire Rousselet, Irène qui a perdu sa confiance en elle, avec ce problème, qu'est-ce que vous pouvez lui dire?
La question pour Irène, c'est qu'est-ce que ça renvoie pour elle? Pourquoi c'est un complexe pour elle de transpirer beaucoup? Et qu'est-ce que ça renvoie comme image avec la question des odeurs, etc.? C'est peut-être la question de les gens vont penser que je suis pas propre, les gens vont penser que j'ai pas une bonne hygiène, etc. Et donc, c'est peut-être ce qui vous pousse à vous inhiber plutôt qu'à trouver des stratégies. On vous a dit que ça pouvait être les glandes, les hormones. En effet, c'est une piste. Après, je pense que ce qui va vous permettre de sortir de votre inhibition, c'est tout simplement d'avouer votre gêne. D'accord? Comme les gens qui rougissent, les gens qui transpirent beaucoup, le fait de pouvoir avouer sa gêne, entre guillemets, dire voilà, il m'arrive de transpirer beaucoup et ça me gêne beaucoup, vous permet de vous débarrasser du sujet parce que finalement, les gens comprennent bien. Alors que si on garde finalement le silence autour de ce sujet et qu'on subit, c'est là que nos pensées galopent. On commence à se dire, oh là là, qu'est-ce qu'il va penser? Là, je transpire de plus en plus. L'anxiété augmente et augmente la transpiration. Alors, moi, je lui conseillerais à Irène d'avoir des stratégies qu'elle doit sans doute déjà avoir, un t-shirt supplémentaire ou des choses comme ça, ou un petit parfum, un petit déodorant, une lotion, ce qu'elle veut, qui va lui permettre d'être assurée. Et surtout, de faire cette étape, en tout cas importante en affirmation de soi, d'avouer sa gêne et de dire, voilà, ça m'arrive. Et donc, ça évitera de majorer le phénomène en augmentant avec l'anxiété. Et ça permettra aussi de détendre l'atmosphère en évacuant le sujet.
Vous avez déjà réussi à en parler autour de vous, Irène, à vos amis, si vous avez un ami?
Oui, effectivement. Et je crois que ça a ça aussi un lien. J'ai deux amies avec lesquelles j'en parle et plus j'en parle avec elles, plus je me sens à l'aise avec elles en fait. Avec elles, je n'ai pas de complexe et tout ça.
Et qu'est-ce que vous disent ces amies? Elles vous disent que ça les gêne ou elles disent qu'elles ne s'en rendent même pas compte?
En fait, elles me disent qu'elles ne sentent pas cette odeur. Mais moi, ce que je vis en réalité, c'est autre chose. Par contre, quand je fais insurrection dans une surface qui est fermée, Il y a des gens qui éternuent, il y a des gens qui toussent. Je sens qu'il y a une prolifération des bactéries, il y a des odeurs. Moi, en tout cas, je sens cette odeur-là et tout. mais les gens me disent qu'ils ne sentent pas.
Donc c'est votre impression à vous aussi, les gens ne se plaignent pas de ce problème, c'est vous que ça gêne, c'est pas forcément les autres.
Mais le truc, c'est pas, en fait, on me dit que c'est une imagination, mais moi je refuse que ça soit une imagination. Si c'est une à deux fois, ça pourrait être une imagination, mais à chaque fois que je fais insurrection, je sens le même truc arriver. Mmh. Vous
donc,
voyez?
Mmh. Donc, Anne-Victoire Rousselet, il y a aussi peut-être un travail à faire, justement, comme vous disiez, en parler pour que ce soit moins pesant.
Oui, et puis évidemment, quand ça la préoccupe, hein, Irène, quand ça vous préoccupe, il y a cette notion d'hypervigilance, c'est-à-dire, c'est ce que je vous disais, c'est majoré par l'anxiété, puis après, on ne fait attention qu'à ça, on n'entend même plus ce que disent les gens, et tous les indices du comportement des gens est interprété comme un signe que ça les gêne. Donc, pour pouvoir se défocaliser, encore une fois, avouer sa gêne est fondamental.
Merci beaucoup, merci Irène pour ce témoignage. On va prendre tout de suite la direction du Burkina Faso où nous allons retrouver Gédéon en ligne de Tougan. Bonjour Gédéon.
Bonjour.
On vous écoute, allez-y.
Ok. Je me nomme Paris Gédéon. Je suis à Tougan.
Bah alors on a le problème même nom de famille, Gédéon, et on écoute votre histoire, allez-y.
Voilà, bon... Effectivement, moi, j'ai un défaut. Bon, si quelqu'un venait à me demander quelque chose, je peux pas dire non. Mm-hmm. Voilà, donc, j'ai peur de dire non pour que la personne ne puisse se détacher de moi. J'ai peur que si je dis non, bon, la personne va dire que tu es méchant, tu n'es pas une bonne personne, la personne va te critiquer. Bon, ça joue énormément sur moi, c'est vraiment un défaut. Souvent, il arrive des fois que, bon, j'arrive à donner quelque chose involontairement. Si la personne vient me demander, je donne involontairement. Mais après, je regrette. Je regrette de ce que j'ai fait. Mais si la même personne revient encore pour demander quelque chose, bon, je lui donne encore involontairement. Et bon, c'est un problème qui... Sur le plan financier, bon, ça joue beaucoup sur mes économies, puisque si les gens viennent demander quelque chose chez moi, comme l'argent, bon.
Est-ce que, Gédéon, j'ai une question à vous poser. Est-ce qu'autour de vous, les gens savent que c'est votre nature d'être incapable de dire non? Et finalement, il y en a qui en profitent. Vous êtes entouré un petit peu de profiteurs. Ils disent, bah, on va aller voir ce bon Gédéon parce qu'on peut lui demander n'importe quoi. Il dit toujours oui, Gédéon. Est-ce que ça se passe comme ça?
Oui, effectivement, il y a d'autres personnes qui ont su que j'ai ce défaut-là. Bon, il y a d'autres même qui viennent demander, bon, ils servent leur mine pour que, en fait, comme ils savent que s'ils servent leur mine là, je vais les remettre. Ils servent leur mine, bon, je les remets involontairement. Bon, après, maintenant, si je suis seul, je pars m'asseoir, je réfléchis, bon.
Après, ça, vous regrettez, mais oui, est-ce que vous avez déjà essayé une fois de dire non ou jamais vous n'y êtes arrivé?
Non, si c'est demander quelque chose envers moi, je n'ai jamais.
Vous n'arrivez pas. Anne-Victoire Rousselet, voilà. Là, on peut dire que Gédéon, il se fait exploiter, hein, c'est ce qu'il raconte. Les gens viennent le voir simplement pour obtenir des choses parce qu'ils savent qu'ils ont affaire à quelqu'un qui ne sait pas dire non, tout simplement.
Oui. Alors c'est malheureusement fréquent, et donc c'est les Gédéons sont vite repérés par les gens qui ont besoin de services en général. Alors j'ai des petites choses à donner à Gédéon. La première, c'est réfléchir pourquoi il n'ose pas dire non. Souvent, c'est la crainte du jugement négatif de l'autre. Ça peut aussi être la peur de blesser l'autre, de perdre l'affection de l'autre, sa présence. Réfléchissons à ce qu'on perd vraiment, Gédéon, quand on va dire non à quelqu'un qui abuse. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, Gédéon, quand c'est difficile de dire non, ce qu'on propose aux gens, c'est de faire des compromis. Donc, je veux bien t'aider à faire ça si ton ami ne peut pas t'aider. Par exemple, déménager, bah écoute, je suis pas très disponible samedi, mais si tu as encore des choses à faire, je pourrais t'aider dimanche de 15 à 16. On va faire un compromis qui permet de ne pas dire non directement. Donc, c'est une petite astuce, d'accord? Donc, de gérer notre culpabilité dans un premier temps. Et puis surtout, de ne pas dire oui à tout va, là où après on regrette parce qu'on s'est engagé dans des trucs qui nous mettent en difficulté, parce que on avait envie de faire autre chose, parce que ça nous pousse à devoir être rapide sur d'autres choses qu'on s'était fixées, etc. Donc voilà ce que j'aimerais vous dire, Gédéon, et bien réfléchir à qu'est-ce qu'on perd vraiment dans cette relation si on lui dit non. Et est-ce que si les gens à qui je dis non se détournent de moi, est-ce que réellement j'ai perdu une relation importante?
Gédéon, les personnes, elles viennent et vous demandent directement, par exemple, de l'argent. Imaginons que je suis cette personne, je viens vous voir, bonjour Gédéon, il faut vraiment que je paye l'éducation de la petite dernière, est-ce que tu peux me donner tant de billets? C'est direct comme ça ou c'est plus détourné?
Oui, c'est direct comme ça, ils viennent expliquer leurs problèmes.
Et vous, ça met quand même en difficulté vos finances familiales?
Pardon?
Ça met en difficulté le budget de la famille.
Oui, effectivement, ça met en difficulté. Il y a des moments, j'avais prévu l'argent qu'ils sont venus pour demander, j'avais prévu de faire quelque chose avec. Mais si la personne vient s'exprimer,
Et si vous dites à cette personne, mais écoutez, cet argent, je ne l'ai pas parce que je vais le dépenser pour faire ça, allez voir telle ou telle personne. Et puis vraiment, si vous n'y arrivez pas, revenez me voir. Mais moi aussi, j'ai des dépenses à faire. Ça, tout simplement, vous ne pouvez pas lui dire?
Non.
C'est difficile.
Sur place seulement, je passe à l'action. C'est après maintenant, si je m'assois...
Que vous regrettez.
Je regrette.
Anne-Victoire.
Oui, Gédéon, très important, il ne faut pas vous justifier.
Ah.
D'accord? Vous n'avez pas à vous justifier. L'argent que vous avez, vous le gagnez, il est à vous. Vous en faites ce que vous voulez. Si vous voulez rien en faire, le mettre sous votre oreiller ou acheter un nouveau ballon pour le dernier, ça ne regarde pas les autres. Donc, il ne faut pas vous justifier. Pourquoi? Parce que c'est la porte ouverte pour la négociation. Si vous commencez à dire, écoutez, cet argent, j'en avais besoin parce qu'on avait envie d'aller se promener, de faire quelque chose, l'autre va dire, bah oui, mais moi, j'en ai besoin pour vivre, tu penses qu'à toi, t'es égoïste, etc., etc. Donc, surtout, ne pas laisser la porte ouverte à la justification et simplement dire, je suis vraiment désolée, je vais pas pouvoir te prêter cet argent. Si vraiment tu as besoin, au bout dans une semaine, après avoir demandé à d'autres personnes,
Vous différez,
je pourrais éventuellement te prêter tant, mais beaucoup moins que ce que les gens vous demandent, hein, ce que vraiment vous avez en trop, si vous avez en trop, mais sinon... C'est non, je suis vraiment désolée, je ne vais pas pouvoir te prêter cette somme. L'autre va être triste et va chercher à insister. Quand c'est vous qui dites non, c'est à vous de finir la conversation. Sinon, l'autre va continuer à insister. Écoute, je suis vraiment désolée, je te souhaite une bonne journée et j'espère que tes problèmes vont se résoudre. D'accord? Mais si vous justifiez, c'est le début où on va s'embourber, hein, voyez?
Voilà pour ces conseils, Gédéon. On vous souhaite une excellente journée au Burkina. Il nous reste quelques petites minutes, Anne-Victoire, pour retrouver Moussa en Guinée, qui est à Cancan avec nous. Bonjour, Moussa.
Bonjour, Caroline. Bonjour à votre invité.
On vous écoute, Moussa. Allez-y.
En fait, moi, mon problème, je n'ose pas assez qu'on s'intéresse à moi lorsque je parle. Parce que quand on s'intéresse à moi, je commence à faire les mots. Je n'arrive pas à comprendre maintenant à qu'est-ce que je vais parler. Donc, ça, je ne sais pas si c'est tout le fait de ma complexité, c'est à cause de ça que je perds des mots. Donc, même avec ma propre, même des fois, parler avec elle, bien au lieu. Je ne parle pas d'être sérieux avec elle, mais quand il faut parler avec elle et dialoguer avec elle, c'est tout à fait des problèmes avec moi, quoi. J'aimerais savoir si vous avez des méthodes pour ça, pour vraiment m'aider pour ça, quoi.
Des problèmes, perdre le fil de sa parole, avoir la voix qui tremble, perdre ses moyens, c'est ça, Moussa, quand vous mettez à parler?
Oui, c'est ça, exactement.
Anne-Victoire Rousselet, qu'est-ce que vous pouvez dire à Moussa, justement, pour améliorer ses prestations en public, parce qu'il a envie de parler tout simplement, de s'exprimer?
Alors, il faut qu'il apprenne à le faire peut-être devant le miroir, d'accord, à respirer calmement, à se détendre, et à répéter peut-être dans un premier temps ce qu'il a envie de dire, d'accord ? Mmh. Donc préparer dans un premier temps son discours pour s'entraîner devant le miroir, et vous allez voir que l'entraînement permet d'être beaucoup plus à l'aise. Et on peut recontrôler ces indices physiologiques hein, que vous évoquez, tremblement de la voix, peut-être transpiration, peut-être bégaiement. L'idée, c'est de recontrôler sa respiration en faisant de la respiration ventrale, d'accord, et en ralentissant son rythme respiratoire, tous ces indices-là vont diminuer. Et surtout, je vous dis encore une fois, préparez ce que vous avez à dire, quitte à vous faire une petite note. On n'est pas à l'école. On a le droit d'avoir une petite note pour se rappeler ce dont on a envie de discuter.
C'est vrai que des fois, quand on va à des rendez-vous importants, on a sa note avec nous. Hein. Même quand on va chez le médecin ou on va rencontrer quelqu'un pour, je sais pas, une propriété, une assurance ou quoi que ce soit, on a sa petite note, on peut faire pareil pour s'entraîner.
Oui.
Et vous avez déjà essayé, par exemple, Moussa, avant d'aller rencontrer quelqu'un, de faire une petite séance d'expérimentation avant ?
Oui, des fois, j'essaye de le faire. Mais je parle même avec des amis, si on parle, on dialogue entre nous, ça m'arrive quand je prends la parole et je vois que tout le monde commence à s'intéresser à moi. Donc, je fais automatiquement le slalom, quoi. Je comprends pas. Puis maintenant, c'est ce que je dois dire maintenant.
Perdre ses moyens quand les regards se tournent vers vous, quand l'attention se porte sur vous, un petit peu comme certains élèves à l'école, quand ils lèvent la main, qu'ils deviennent rouges et que les mots ne sortent plus.
Mais c'est quand vous êtes le centre de l'attention, hein, c'est ça ?
Oui, c'est ça même.
Ouais. Donc quand vous êtes le centre de l'attention, donc là, ça veut dire que c'est plus lié à votre pensée. Il n'y a pas de problème quand vous êtes avec des amis, qu'il n'y a pas beaucoup de monde. Mais dès qu'il y a beaucoup de monde qui vous regarde, donc il faut définir combien de personnes à peu près ça commence. Et puis, de la même façon, il va falloir vous entraîner et se poser la question de qu'est-ce qui me gêne à être le centre de l'attention. Et quel est le problème à bégayer quand je suis le centre de l'attention ? Pourquoi c'est un problème d'avoir une communication imparfaite lorsque je suis le centre de l'attention ? C'est-à-dire en filigrane et sous-jacent, qu'est-ce que les gens vont penser de moi ? C'est souvent ça, hein, c'est la question de l'anxiété sociale. Hein.
Donc, il va falloir des petites séances d'entraînement. Et quand vous serez entraîné, Moussa, n'hésitez pas à nous dire comment ça s'est passé, dire si ça s'est amélioré, l'exercice du miroir, essayer avec vos amis en parlant à plus ou moins de personnes pour voir comment ça se passe. On vous souhaite en tout cas bon courage, Moussa. Anne-Victoire Rousselet, notre émission arrive à sa fin, à son terme. On voit que ça concerne tous les milieux, toutes les situations, ce problème d'affirmation de soi, hein, qu'on soit au travail, en famille, avec les amis ou même... avec son petit ami, on voit que ça concerne le quotidien.
Bien sûr, et puis toutes les cultures, et toutes les cultures surtout. C'est ce qui est très intéressant aussi à discuter ensemble, hein, c'est qu'on voit que ces croyances, ces idées qu'on va gêner l'autre, que l'autre, qu'on va pas être intéressant, qu'on va nous juger négativement, c'est quelque chose qui fait partie de notre développement en tant qu'être humain.
Et sur lequel on peut travailler, comme on l'a bien compris, avec tous vos conseils. Merci beaucoup, Anne-Victoire Rousselet, hein, de vous être rendue disponible pour les auditeurs de Priorité Santé. Je rappelle que vous êtes psychologue, psychothérapeute spécialisée en thérapie comportementale et cognitive au Centre hospitalier Sainte-Anne à Paris. Priorité Santé touche à sa fin. Merci à toute l'équipe, à Cétoussa Maquet, Juliette Brault, Didier Bleu, Raphaël Lazizi. Aujourd'hui, demain, on va parler du bégaiement, trouble de la parole et quelle prise en charge. À demain. D'ici là, portez-vous bien, lavez-vous bien les mains et portez un masque.
C'était Priorité Santé avec les sociétés Suno Assurance qui, au Mali et en Centrafrique, ont fusionné avec les sociétés Alliance et portent désormais la dénomination Suno Assurance. Suno Assurance, notre métier, l'assurance.